terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Voilà, c'est avec beaucoup d'honneur que je reçois Rouba Ghazal, la députée de Mercier. C'est la première fois qu'on se rencontre et la course au porte-parole, au co-porte-parole de Québec solidaire m'en donne l'occasion. Bonjour, puis merci d'avoir accepté l'invitation.
Ben bonjour, tout l'honneur est pour moi de vous rencontrer. Merci de l'invitation.
Non, merci vraiment parce que je sais qu'en ce moment, il y a une tournée du Québec. Je vais commencer néanmoins par l'actualité qui nous rattrape. Ce qui se passe du côté de la Palestine, la bande de Gaza, où il y a eu ce qu'on sait en fin de semaine dernière. Vous avez fait une sortie. Vous avez condamné l'attaque du Hamas, mais vous avez quand même tenu à rappeler qu'il fallait aussi condamner de l'autre côté le régime que vous qualifiez d'extrême droite de l'État d'Israël. Vous voulez revenir un peu là-dessus?
Écoutez, je veux dire, si ce genre de drame-là, de crimes qui ont été commis, là, on est en train d'en savoir un peu plus, ce que le Hamas est allé faire en Israël, c'est vraiment l'horreur. Je veux dire, il y a des grands-mères, des enfants, des gens innocents qui sont morts, assassinés, tués, des maisons brûlées. Puis ça, souvent, dans n'importe quelle situation comme celle-là, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Puis ici, malheureusement, en Israël, évidemment, il n'y a rien qui justifie les crimes faits contre des innocents, jamais. Mais on peut pas juste dire « Ah, ça s'est passé ici, puis ça aurait pu se passer n'importe où. » Ça s'est passé ici parce qu'il y a une situation qui existe depuis très, très longtemps, qui est la colonisation armée de l'État d'Israël. En ce moment, les Israéliens eux-mêmes contestent leur gouvernement d'extrême droite, dont il y a un ministre qui se définit lui-même de fasciste. Je veux dire, jamais on n'aurait pu penser qu'en Israël, il y aurait des gens qui se définiraient comme fascistes, sachant qu'est-ce que les fascistes ont fait subir aux Juifs crime. Et quand il y a des crimes de guerre comme ça qui se passent d'une part et de l'autre, donc pour moi, c'est important comme palestinienne d'origine de réagir à ça, puis de condamner l'innommable, de condamner les crimes qui ont été commis par le Hamas, et aussi de parler du contexte dans la région. Puis c'est vraiment quand on parle de ça, il y a toujours faut prendre son camp, une polarisation.
Effectivement.
Avec eux ou contre eux, ça existe pas ça. C'est des humains qui souffrent de la situation actuelle, qui souffrent du manque de courage de la communauté internationale de dire bon ben là ça suffit. Il y a assez eu de morts, ça fait 75 ans que l'État d'Israël a été créé et qu'il y a cette guerre avec les Palestiniens, la bande de Gaza. Je veux dire, c'est inhumain de vivre là-dedans. Les gens sont pris en souris. Donc, il ne peut rien sortir de bon quand on enferme des gens. Donc, pour moi, c'était important de faire cette première réaction, puis de le faire avec nuance et aussi avec respect, parce que le sang des innocents est encore... et malheureusement, il va en avoir d'autres. Mmh. Avec l'attaque de l'État d'Israël qui veut en terminer avec le Hamas, ben, je m'excuse, mais là, ils sont en train d'en terminer avec le peuple palestinien. Le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Les gens sont désespérés. Et là, ils sont en train, eux aussi, d'être tués, d'être bombardés. Et c'est juste l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'humanité qui est affectée en ce moment.
Et effectivement, là-dessus, je sais qu'il y a aussi un petit débat. Par exemple, il y a eu la sortie du Premier ministre François Legault qui a estimé que toutes les manifestations où on voyait le drapeau palestinien à Montréal était nécessairement un soutien au Hamas, alors que les gens, moi j'ai assisté à une des manifestations dimanche dernier.
Et j'ai vous avez été condamné par Monsieur Legault?
je ne sais pas si c'est vraiment condamné. Ben, en plus, moi je sortais, puis je suis venu regarder ça comme journaliste. Puis il y avait surtout le fait que les gens disaient la réaction d'Israël devait être, comme on dit, formule consacrée, devait être proportionnée, parce que comme vous venez de le dire, le Hamas n'est pas
Le peuple palestinien. Écoutez, on est dans un état de droit. Quand les gens manifestent, ils ont le droit, même si c'est pour des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est sûr que s'il y avait une manifestation pro-Hamas, moi, j'aurais été mal à l'aise avec ça. Mais après ça, les gens, dans un état de droit, je veux dire, on veut pas jouer à la chasse aux sorcières. Ils ont le droit de manifester. Mais si les gens ont dit, c'est vraiment on le sait, qu'est-ce qui va arriver. Ça va être les Palestiniens encore qui vont souffrir. Ça continue. C'est pas nouveau, je veux dire.
C'est pas nouveau, bien sûr.
Il y a plein de choses qui se passent, notamment à Jérusalem, même en Cisjordanie. Tu sais, tout ça, là, des violences qui ont lieu tout le temps. Puis là, les gens, ils voulaient s'exprimer leur appui aux Palestiniens. Je veux pas vous jouer à la chasse aux sorcières. Il y en a peut-être qui étaient là pour les bonnes raisons, il y en a qui étaient là pour les mauvaises raisons. On est dans un état démocratique et les gens ont le droit de sortir. S'il y en a qui appuient le Hamas, moi c'est sûr que j'ai un malaise avec ça. Parce qu'on peut pas appuyer ce genre de crime-là. On peut pas. Mais de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec les Palestiniens maintenant? Ça va être eux, puis on va voir avec le nombre de victimes. C'est pas une concurrence, là. Une vie humaine, c'est une vie humaine. Mais quand on va voir le nombre de victimes qui vont sortir de là encore, moi, je pense aux gens qui sont pas, aux enfants pas décédés, qui vont décéder. Je veux dire, ils ont le droit de vivre, ces enfants-là. Mm-hmm. Puis moi, ça m'affecte parce que nous, on est ici dans le confort du Québec, dans les pays occidentaux. Moi, c'est juste une chance que j'ai que ma famille a décidé de venir ici parce que mes 4 grands-parents ont été réfugiés de Palestine au Liban en 1948. Ma grand-mère, qui est encore en vie avec nous aujourd'hui, elle est malade, elle vit à Laval maintenant. Elle avait 16 ans à cette époque-là. Puis, donc, c'est sûr que ça vient me chercher parce que je me dis, s'ils avaient fait un autre choix, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ma famille, ben je rechercherais là, je serais là. Puis là, je suis ici, puis je commande de l'extérieur, du confort. Il y a comme un sentiment de culpabilité aussi qui m'assaille par rapport à tout ce qui se passe. Oui.
Vous avez fini votre tweet et même votre post sur Instagram avec cette expression « Vive la paix ».
Oui.
C'est tout ce qu'on peut.
Oui.
C'est tout ce qu'on peut souhaiter en espérant que voilà l'escalade ne sera pas.
Puis commençons parce qu'on peut se dire qu'est-ce que le petit Québec ici. Ben on est une grande nation, mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Ben commençons par nous-mêmes en parler de façon respectueuse à la dignité humaine aux humains qui souffrent. Puis appelons à ce que par exemple le gouvernement du Canada, parce que le Québec n'est pas sur la scène internationale, que le gouvernement du Canada fasse pression pour que ça arrête, pour qu'il y ait un cessez-le-feu, parce que l'escalade de la violence, on sait quand ça commence, on sait comment ça se termine, je veux dire, ça se termine jamais. Mm-hmm. C'est infernal. Et à un moment donné, il faut dire stop, c'est assez, il y a eu assez de souffrance, assez de morts depuis des décennies. Maintenant, c'est notre responsabilité envers la dignité humaine de dire arrêtons tout ça des deux côtés, puis il faut qu'il y ait des négociations de paix. On ne peut qu'appeler à ça. Nous n'avons pas le choix, parce que sinon, c'est juste la mort et la destruction.
Bien sûr. Alors, revenons à notre sujet. Oui. Vous êtes en pleine tournée du Québec pour cette course au co-porte-parole là. Et la question, elle a dû vous être posée au moins 1000 fois depuis le 21 mai, le jour où vous avez annoncé que vous étiez candidate à ce poste-là. Donc, je ne vais pas être original. je ne vais pas être original et je vais vous la poser directement, comme on vous l'a déjà posée. Pourquoi voulez-vous être co-porte-parole de Québec solidaire?
C'est une excellente question. Puis les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils n'avaient pas entendu ce que j'avais répondu. Donc, écoutez, moi, je suis membre fondatrice de Québec solidaire. Donc, j'étais là en 2006, quand Québec solidaire a été fondé. J'ai même été là à l'ébauche de Québec solidaire.
Je militais avec Françoise David.
Françoise David, Manon Mancé, François Saillant, dans Option citoyenne. J'ai été très, très active dans ce mouvement politique de gauche pour contrer les idées de droite et de Jean Charest à l'époque. Et après ça, il y a eu la fusion avec l'Union des forces progressistes qui était déjà une union de plusieurs partis de gauche pour dire, ben il va falloir qu'on ait une force politique de gauche au Québec qui soit à l'Assemblée nationale. Puis moi, j'étais présente. Je me suis même présentée aux élections en 2007 et en 2008 que j'avais perdu parce qu'on venait juste de commencer. Oui. Dans Laurier d'Orion, j'avais fait quand même un bon score de un peu plus que 15 %, ce qui était honorable à l'époque en 2008. Et c'est là que Amir Kadir, le député de Mercier, ancien député de Mercier, a gagné. Donc, c'est le siège que j'occupe aujourd'hui depuis 2018. Donc, j'ai contribué à ce parti-là, un parti écologiste, féministe pour la justice sociale, depuis ses débuts auxquels je crois. Québec solidaire, c'est ma maison. J'ai été élevée politiquement entre les mains de Françoise David et de Manon Mancé, si je peux dire. Et donc, j'y ai contribué comme militante. J'y ai contribué depuis depuis que je suis députée depuis 2018. C'est mon deuxième mandat, députée de Mercier. Et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai une vision. J'ai envie que Québec solidaire prenne le pouvoir un jour. Et j'ai une vision pour le mener plus loin. Et de par mon expérience de militante, de députée, mais aussi de travail dans le monde... Moi, j'ai travaillé en santé, sécurité et protection de l'environnement dans des entreprises privées pendant une quinzaine d'années. Donc, de par tout ça, je le sais que je peux contribuer à ce parti pour nous mener plus loin, pour arrêter de stagner. Depuis 2018, on stagne. Mm-hmm. On est autour de 15-17 % dans les intentions de vote. Donc, moi, je suis certaine que notre projet de société peut parler à beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'électorat, puis j'ai envie de nous amener plus loin. Puis c'est pour ça que je me présente avec une vision puis une plateforme.
Mm-hmm. Vous avez mis trois thèmes principalement en avant. L'indépendance, la langue, la culture.
En fait, moi, c'est un thème pour moi, tout ça.
Okay.
C'est-à-dire l'indépendance, la langue, la culture. C'est que Québec solidaire, dès notre début, puis jusqu'à aujourd'hui, la lutte aux inégalités, la justice sociale, la redistribution de la richesse, tout ça, là, c'est quelque chose de fort dans notre parti. Il faut que ça continue à être fort. Quand on voit l'écart de richesse qui existe entre les plus pauvres, les plus riches, même au Québec, quand on voit les banques alimentaires se remplir de gens qui mangent pas à leur faim, même s'ils travaillent, même des enfants qui vont là. Donc, pour moi, c'est fondamental et ça, c'est Québec solidaire. Il faut qu'on continue à porter ça, de parler de la crise du coût de la vie. Je le fais beaucoup avec mes collègues. Après ça, la lutte au changement climatique, c'était pas le cas au début à notre fondation. C'était un parti écologiste, mais on n'en parlait pas tant que ça. Mais en 2018, c'était très, très fort. On est le parti écologiste pour l'adaptation au changement climatique, la lutte au changement climatique, et on a raison avec l'été qu'on a vécu. Mais il y a quelque chose, peut-être, que les gens n'entendent pas de nous, et c'est de parler des enjeux que moi, j'appelle les enjeux du cœur, les enjeux moins de conditions matérielles, mais plus de l'identité québécoise, de c'est quoi le Québec, cette petite nation francophone en Amérique du Nord. Et on a envie qu'elle continue de grandir avec tous les gens qui viennent la rejoindre, comme moi et ma famille. Moi, je suis arrivée au Québec, j'avais 10 ans. Je parlais pas un mot de français. Je l'ai appris ici au Québec. J'ai appris la culture, la langue ici du Québec. Et je suis devenue entièrement québécoise, tout en étant palestinienne. Et je sens que ce discours-là de Québec solidaire n'est pas assez entendu. Et j'ai envie, alors qu'il existe, qu'il est dans notre programme, dans notre plateforme, on est un parti pour l'indépendance du Québec, pour avoir tous nos pouvoirs pour faire la transition écologique, tous nos pouvoirs pour faire tout ce qu'on veut ici au Québec, puis pour protéger notre langue et notre culture qui est menacée pas par les immigrants, elle est menacée malheureusement par les GAFAM, les Netflix de ce monde, la culture, l'hégémonie nord-américaine, de la culture américaine. Donc, j'ai envie qu'on nous entende plus, nous, comme parti de gauche, parler de ces enjeux-là et nous réapproprier un nationalisme ouvert, inclusif, un nationalisme pas de conservation et de fermeture sur soi comme celui que promeuvent et le Parti québécois et la CAQ, mais quelque chose de beaucoup plus ouvert, plus lumineux. Et moi, j'ai envie que nous, comme parti de gauche, mais qu'on le porte encore plus loin puis de créer un pont entre la majorité et les minorités. Mm-hmm. Puis la majorité, je parle des gens qui veulent accueillir des immigrants partout, mais qui ont peur que leur langue, leur culture soit peut-être menacée dans le futur. Et c'est important que Québec solidaire aussi parle à ce large électorat qui ne nous voit pas comme défendant ces enjeux-là. Je veux juste que ça soit entendu. Puis comme ça, on aurait un projet de société vraiment, vraiment complet.
Vous avez dit tantôt une chose... Québec solidaire stagne depuis un moment.
Oui.
Et dans cette stagnation-là, les spécialistes, les observateurs politiques disent, mettent en avant le fait que vous êtes déconnecté de la région. Et donc, lorsque vous mettez en avant votre candidature, on dit oui, mais Rouba Ghazal, elle est de Montréal. Ouais. A-t-on besoin d'une deuxième co-porte-parole qui vienne de Montréal?
Mais premièrement, moi, je suis très fière d'être députée du comté de Mercier. C'est le comté historique de Québec solidaire où on a gagné le premier siège avec Amir Kadir. Et on est allé partout. On est allé partout à Montréal. On est sorti de Montréal. On a des sièges, des députés à Québec, à Sherbrooke, même à Rouyn, Noranda, Témiscamingue. Mm-hmm. Et donc, ce n'est pas uniquement le lieu, le code postal des porte-paroles. Je veux dire, M. Legault, il habite à Montréal. Paul Saint-Pierre Plamondon est député aussi à Montréal. Le Parti libéral, c'est la même chose. Donc, alors qu'on est capable, tu sais, d'aller, d'élargir beaucoup plus loin. Puis moi, le slogan de ma campagne, c'est pour une porte-parole nationale. Mmh. C'est-à-dire que quand on devient porte-parole, moi, je ne fais pas que représenter mon comté où est-ce que j'habite. Quand je parle, par exemple, je suis porte-parole en matière d'éducation pour Québec solidaire, ben j'ai fait une tournée éducation. Les tournées, je connais ça, pas juste avec la course. Depuis le début de l'année, j'en ai fait une dans 5 régions différentes pour aller voir comment ça se passe partout. On a des membres, 20, 25 000 membres de Québec solidaire qui ne sont pas qu'à Montréal, ils sont partout. Ils sont nos yeux et nos oreilles en attendant qu'on ait des députés. Et moi, je suis extrêmement connectée avec nos membres, étant une membre fondatrice depuis très, très longtemps. Et l'important, c'est de faire entendre cette voix. Donc, quand on est porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, il est député à Montréal, mais quand il parle au nom de Québec solidaire, il ne parle pas de l'endroit où est-ce qu'il habite ou du comté de Montréal. Il parle de façon nationale. Il faut que Québec solidaire, on ait une portée nationale. C'est pas parce qu'on a des porte-paroles qui viennent d'ailleurs. Je dis pas que c'est pas bon, ça pourrait être une bonne chose. Mais c'est pas parce qu'on a une porte-parole qui vient d'ailleurs que tout d'un coup, automatiquement, les gens vont voter pour nous. Et pour ça, on a un défi. Parce qu'on peut pas un jour vouloir former le gouvernement si on ne gagne pas suffisamment de comtés et qu'on n'est pas connecté suffisamment avec les gens qui habitent partout sur le territoire. Mmh. Puis c'est pour ça que dans ma plateforme, moi, ce que je dis, c'est qu'il va falloir s'assurer de nos positions politiques. Le code postal des chefs ou des co-porte-parole, c'est pas ça qui va faire que les gens vont voter en 2026. C'est qu'est-ce que vous proposez pour nous réellement. Et moi, une des propositions que je fais, d'autres que celles qu'on vient de nommer, puis c'est de dire, ben souvent, Québec solidaire, on va parler de la région. Mais la région, ça n'existe pas. La réalité de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas la même que celle de l'Outaouais, n'est pas la même que celle de Saguenay-Lac-Saint-Jean, du bas du fleuve, de Québec. Et il y a des centres urbains un peu partout. Il y a la ruralité. Mais il y a quelque chose aussi d'autre qui sont les banlieues. Mmh. Moi, je viens de la banlieue. Ma famille habite là, à Laval, dans la banlieue nord. J'ai travaillé à Mirabel. J'ai vécu pendant longtemps aussi à Sainte-Thérèse. Donc, on a des membres un peu partout. Puis ça, c'est beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de populations. Souvent, à Québec solidaire, on dirait qu'on les a dans notre angle mort. Puis ces gens-là qui habitent en banlieue... Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que nos chiffres ne sont pas très bons pour les votes. Alors qu'il y a un potentiel là, il y a beaucoup de gens qui habitaient en ville, qui sont Québec solidaire, souvent, où est-ce qu'on peut leur parler. Puis quand je dis ville, je parle pas juste de Montréal, je parle de Québec, de Sherbrooke, les centres urbains. Et souvent, quand ils veulent élever leur famille, ils quittent. Parce que c'est trop cher. Donc, ils vont aller habiter en banlieue.
Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
Je suis toujours en compagnie de Rouba Ghazal, députée de Mercier, candidate au poste de co-porte-parole de Québec solidaire.
Mais mon pourquoi, c'était pourquoi votre discours, Rouba Ghazal, pourquoi votre discours ne les touche pas, ne les atteint pas, et comment aujourd'hui vous allez...
Oui, on n'a pas fait le travail. On n'a pas fait le travail pour les gens des banlieues, alors qu'on a des membres. Donc moi, c'est une intuition que j'ai, et je me dis que... On peut pas, souvent quand on va dire « Ah, il faut sortir de Montréal à Québec solidaire », nos membres nous disent ça. Puis tout de suite, on est rendu en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine et tout ça. Je comprends, il faut aller là. J'y suis allée, je suis allée jusqu'à la Côte-Nord. Puis on a des membres, puis il faut. Puis il y a des positions politiques, notamment sur l'indépendance, qui peut aller chercher l'indépendance, la culture, la langue, qui peut élargir notre électorat, des gens qui sont un peu plus vieux, qui habitent en région plus éloignée. Mais on n'a pas assez travaillé les banlieues. Et moi, ce que je dis... venant de là, connaissant la façon que ça fonctionne là, ben, va falloir qu'on arrête de les avoir dans notre angle mort parce que les propositions qu'on fait, par exemple, quand on parle de la crise du coût de la vie, c'est souvent des gens qui ont une hypothèque, qui coûte de plus en plus cher. Ils ont leurs enfants, ils veulent les envoyer à l'école publique ou des fois ils disent, mon Dieu, l'école publique, c'est pas ça que je vais les envoyer à l'école privée. C'est pas parce qu'ils sont riches, ils se serrent la ceinture. Ils veulent avoir accès à nos services publics, au système de santé. Ils payent beaucoup d'impôts puis ils ont l'impression qui sont squeezés, là, excuse-moi l'expression, dans toutes les obligations puis qui s'en ont pas assez. Alors que nous, à Québec solidaire, dans nos propositions, quand on parle de la crise du coût de la vie, quand moi je dis qu'il faut que les services de garde dans les écoles soient gratuits, etc., quand j'amène ça, c'est des propositions qui pourraient leur parler. Mais il va falloir aller les voir. On peut pas juste dire nos propositions vont tout d'un coup percoler vers eux puis arriver à leurs oreilles. Il va falloir qu'on sorte du Parlement, de la bulle parlementaire. Ça aussi, ça fait partie de mes propositions. Puis d'aller sur le terrain partout, tout le temps. Moi, je le fais en ce moment. à cause d'une course. Je l'ai fait comme quand j'étais députée. J'ai fait une tournée d'une enfant de la loi 101 dans les régions pour parler de français puis d'immigration. J'ai fait une tournée éducation. Mais si je suis porte-parole, de la même façon que j'ai été une députée terrain, je vais être porte-parole terrain, puis je veux qu'on aille dans les banlieues, puis qu'on ait une stratégie pour leur parler. On est un parti de gauche. Mmh. Qui peut parler plus aux travailleurs, travailleuses, la classe laborieuse, comme on disait à une certaine époque, que nous? Mais moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des usines, dans des entreprises, comme gestionnaire, comme en santé sécurité au travail. Je connais ce monde-là. Je connais ces gens-là. Donc, c'est beaucoup.
C'est beaucoup de choses.
Oui.
Au-delà de la photo. Et quand je dis la photo, vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes sur la photo.
Symbolique.
Symbolique, voilà. Vous êtes sur la photo, vous êtes co-porte-parole. Quel est le discours que vous pensez apporter de nouveau à ces néo-québécois, qui jusqu'ici n'entendent pas encore, je ne dis pas qu'ils n'écoutent pas, mais n'entendent pas encore le discours de Québec solidaire?
Oui. Ben ça, c'est un élément très, très important parce que la perception des gens, c'est que Québec solidaire parle beaucoup des minorités, défend les minorités, notamment les minorités visibles, ethnoculturelles, comme moi, par exemple. Mais est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils votent pour nous? Est-ce qu'ils sont avec nous? Puis moi, j'ai fait une observation. Moi, ça fait très longtemps que je vais au congrès de Québec solidaire, au conseil national, qui sont ces grands rassemblements où est-ce que on décide les membres ensemble, qu'est-ce qu'on fait, quel choix on prend, plateforme, des propositions. Puis je regarde la salle, puis je vous dirais que c'est assez blanc. Mmh. Je fais partie des minorités très très minoritaires dans ces congrès, conseils nationaux. Puis je me dis c'est dommage parce que notre parti a des choses à dire. Puis la perception générale, c'est que on défend beaucoup les minorités et ils sont où? Donc, moi, dans la plateforme que j'ai posée, ruba2023.québec, j'ai à peu près 10 propositions. Et là-dedans, il y en a une où je dis, je lance un appel à toutes les personnes issues de la diversité ethnoculturelle, minorités visibles, etc., audibles, tout ça. Je leur lance un appel. Si les valeurs de Québec solidaire, écologiste, féministe, de protection de l'environnement, de la justice sociale vous touchent et vous parlent, ben Québec solidaire, de la même façon que c'est ma maison, j'ai envie qu'elle soit votre maison. Je vous fais un appel de venir vous joindre à nous, puis d'influencer aussi le parti pour que on soit encore plus nombreux, notamment dans les instances, un peu partout, très présent. Puis moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis ça me fait mal de me dire, après toutes ces années-là, comment ça se fait qu'ils ne sont pas avec nous? Puis récemment, j'ai eu une très, très belle surprise. Il y a des gens qui, des membres de Québec solidaire, issus des minorités, à peu près une vingtaine, plus de 20, qui ont écrit une lettre.
Je vais revenir sur cette lettre-là.
Oui, c'est ça. Et donc, il y a quelque chose à faire. On est dans le contenu. Mais est-ce qu'ils nous entendent? Non. De la même façon que je parlais des gens des banlieues, des travailleurs qu'il faut aller les voir, moi, je crois beaucoup au terrain. Je vous le dis, à Québec solidaire, on est 12 députés très, très bons, très performants. Puis je suis pas la seule qui le dit à l'Assemblée nationale. Mais le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale, quand on pose des questions au Salon Bleu, ne percole pas tant que ça dans la population. Il va falloir qu'on soit plus sur le terrain. Et ça tombe bien parce que Québec solidaire, on est le parti des urnes et de la rue. Donc, il faut qu'on sorte aussi de l'Assemblée nationale. Puis de faire des tournées, moi, il y en a plein. Puis on a des membres qui sont partout. Puis une des choses aussi qu'il va falloir faire, c'est un peu plus voir ces personnes-là. Puis pas uniquement comme on le faisait traditionnellement, les communautés. Tu sais, moi, je suis d'origine palestinienne. Mm-hmm. J'allais pas dans la Fondation canado-palestinienne. Là. Pour moi, c'était comme pour mes parents. Là. Je les aime bien, mais c'est plus comme... Pas pour moi, disons. Ouais. Tu sais, je me sens... Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrants qui se sentent pas attirés à aller dans ces communautés-là. Mm-hmm. Eux, ils veulent être avec leurs amis de toutes sortes qui viennent de partout. Donc, il y a une façon peut-être renouvelée d'aller les rejoindre, d'aller leur chercher. Puis peut-être que juste le fait d'avoir une personne à la tête, par exemple, d'un parti, si jamais les membres m'élisent comme porte-parole, peut-être que juste ça
peut
pourrait
changer,
étirer. Il y a quelque chose de symbolique, mais vous avez raison, on ne peut pas rester dans la symbolique. Il faut aller plus loin.
Et si je vous disais qu'il y a, par exemple, l'indépendance?
Oui,
Qui peut rebuter ces gens? Qu'est-ce que vous leur dites?
Je le sais, j'ai des discussions avec ma famille tous les jours là-dessus.
Dites-moi deux choses. Pourquoi il faut que le Québec soit indépendant? Pourquoi vous êtes indépendantiste?
Oui, parce que protéger, si je pense, Pierre Falardeau qui disait ça, protéger, ou Pierre Bourgault, j'oublie tout le temps, protéger la langue française, la culture québécoise qui est unique, elle n'existe pas ailleurs, c'est protéger la diversité du monde, c'est protéger toutes les cultures du monde. Puis ça, moi, ma famille sont venus au Québec parce que c'est français, mais on parlait pas français, mais pour eux, c'était une richesse pour augmenter ça. Puis pour moi, le Québec... Une des façons là, qu'on arrête d'entendre ce discours qui divise, celui qui, de M. Legault, pendant la campagne électorale, qui dit que c'était suicidaire d'avoir plus d'immigrants, même s'il s'est excusé. Après, il l'a dit. Son ministre, Jean Boulet, qui a dit les immigrants, il y en a beaucoup, ils travaillent pas assez, etc. Je veux dire, c'est horrible. Puis ce discours-là, c'est pas juste récent avec la CAQ. On l'entend depuis une quinzaine d'années, depuis la crise des accommodements raisonnables en 2006-2007. J'étais là, je me rappelle, parce que je me présentais aux élections. Ce discours-là, il est pas bon pour le Québec, il est pas bon pour les immigrants. Puis si on veut que les Québécois se sentent forts, puis qu'ils disent, ben nous, on veut encore plus accueillir, puis que ce discours-là n'ait pas lieu. Si on était un parti, un pays comme tous les autres pays normaux, ben il y aurait plus cette crise identitaire, cette peur de disparaître. Ben regardez, on l'a le pays. Maintenant, on accueille les gens, puis on devient comme tout le monde, puis on arrête d'avoir cette peur de disparaître à cause de l'autre qui est exploité par la droite. Et ça, c'est une raison. Mais il y en a plein d'autres. Avoir tous nos outils, tous nos pouvoirs pour protéger l'environnement. Le Canada est un État pétrolier. Puis eux autres, ils ont du pétrole sale de l'Alberta. Puis nous, ici, on a l'hydroélectricité, on n'en a pas besoin. Puis des fois, il pourrait avoir un pipeline à un moment donné que le fédéral, si c'est Poilievre qui prend le pouvoir, puis il voudrait nous passer un pipeline dans la gorge au Québec. Puis il n'y a pas d'acceptabilité pour ça. Puis il va falloir toujours se battre, toujours se battre. Donc, c'est vraiment pour deux choses. Pour dire, ben qu'on ait confiance en nous, les Québécois. Tu sais, moi, je suis palestinienne. Il n'y a pas de référendum pour devenir un pays ou pas. Je veux dire, tous les Palestiniens veulent un pays. J'ai deux nations, mais je n'ai pas de pays. Mm-hmm. Alors que le Québec, il pourra avoir cette confiance en lui pour arrêter ce discours divisif puis être encore plus accueillant.
Alors, il y a cette lettre que vous venez de mentionner, puis il y a cette phrase-là que j'ai retenue. C'est avec la diversité que nous allons contrer le nationalisme identitaire de droite et que nous allons mettre de l'avant notre nationalisme moderne, inclusif et progressiste. Ça, c'est un extrait de la lettre que des membres de Québec solidaire ont écrite en appui pour votre candidature. Le nationalisme moderne, inclusif et progressiste. Dites-moi plus.
Qu'est-ce que ça mange en hiver, le nationalisme ouvert, inclusif, progressif, dont on n'entend pas parler? Hier, j'étais au lancement de la biographie de Gérald Godin, écrite par Jonathan Liverdoin, puis j'invite tous vos auditeurs à la lire. Et moi, j'ai préfacé, l'auteur m'a demandé d'écrire la préface comme ancienne députée de Mercier. Gérald Godin, c'était l'ancien député de Mercier, donc de mon comté, c'était mon prédécesseur, du Parti québécois, dans les années... fin 70, début 80. Et il a fait un travail extraordinaire de dire, je sais que les immigrants n'adhèrent pas à l'indépendance du Québec, mais moi, j'ai envie de leur ouvrir mes bras, puis de leur parler du Québec, puis c'est mon responsabilité civique de faire ça, puis d'avoir une sorte de... Il le disait peut-être pas exactement comme ça, un nationalisme ouvert, inclusif, et moi, j'ajoute très moderne. Son discours est très, très, très moderne. Il y avait des communautés portugaises, grecques. Il s'est forcé pour apprendre le grec, le portugais, pour parler avec ses commettants dans le comté de Mercier. Et donc, ça, pour moi, c'est un exemple de qu'est-ce qu'a été le projet d'indépendance du Québec. Pierre Bourgault, Michel Chartrand aussi, ce grand syndicaliste, lui, il disait qu'il faut qu'on devienne indépendant pour notamment protéger le droit des travailleurs, des classes laborieuses, des travailleurs dans les usines, à qui on disait ne parle anglais, c'est la langue du boss. Évidemment, aujourd'hui, ça ne se décline pas de la même façon. Mais moi, j'ai envie, comme parti de gauche, qu'on renoue avec cet héritage de ce nationalisme-là. Puis c'est important. Pourtant que les gens qui nous écoutent ne pensent pas au nationalisme comme en Europe. C'est pas la même chose au Québec. C'est une autre réalité. C'est quelque chose de ouvert, de bienveillant, de beau. Puis moi, je trouve qu'on ne l'entend pas au Québec. Puis il va falloir l'entendre, puis il va avoir plus d'oreilles attentives à ce discours-là, puis qui va, comme ça, peut-être mettre un peu de côté ce discours que quand on défend le Québec... On devient fermé aux immigrants. Quand on défend le Québec et la langue française, on veut fermer la porte aux immigrants. On veut
avoir aux anglophones.
Aux anglophones, exactement, tout à fait. Puis il y a comme un discours de division. Puis à Québec solidaire, c'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité, moi, si je suis en politique, pour le bien commun, pour l'unité nationale de tous les Québécois, peu importe qui ils sont, de dire, quand on défend le Québec, bien, on peut aussi défendre les minorités, puis nous voulons être un pont entre la majorité et les minorités. C'est la seule façon qu'on peut s'en sortir et progresser, et c'est ça le nationalisme ouvert et inclusif. C'est Québec solidaire qui peut le mieux porter ce message-là.
Merci, merci à vous. J'ai envie de dire merci à. J'ai bien aimé la dame qui a deux nations, mais pas de pays.
Oui.
J'ai beaucoup aimé cette expression. Merci.
Ruba2023.Québec.
Voilà, on n'oublie pas. Ruba2023.Québec.
Exact.
On n'oublie pas ça. Merci, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Puis j'espère que votre discours, notamment en direction des Néo-Québécoises et Néo-Québécois, va être
oui.
entendu.
Oui, je le souhaite aussi. Merci beaucoup pour
Merci
l'invitation.
Merci à vous.
Mon nom est Cyril Ekwala.